sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Quand on évoque le handicap, on pense souvent fauteuil roulant ou mobilité restreinte. Pourtant, la première cause d'invalidité en France reste le handicap psychique. Schizophrénie, bipolarité, dépression, les troubles psychiques font peur, les symptômes sont multiples, parfois invisibles. Alors on ne parle pas là de handicap mental, les troubles psychiques n'affectent pas les facultés intellectuelles et peuvent se stabiliser grâce à un traitement thérapeutique. Ces troubles psychiques sont tabous dans le monde du travail, hélas souvent le miroir de nos sociétés. Alors comment faire changer les mentalités? Comment mieux inclure ces personnes handicapées psychiques dans les entreprises? Selon une étude publiée hier, un travailleur français sur 5 présente un risque de troubles psychiques liés à son travail. Bonjour Claire Leroy-Attala.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous accompagnez des entreprises, des associations et des fondations pour les aider à mieux prendre en compte les personnes touchées par ces troubles psychiques. Bonjour Jean-Philippe Cavrois.
Bonjour.
Vous dirigez l'association Clubhouse Paris pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques. L'association Clubhouse, on y reviendra, est née aux États-Unis il y a 70 ans. Aujourd'hui, elle compte près de 300 clubs dans 30 pays, dont la France. Et on va l'entendre, cette association a un fonctionnement très original. Une association qui accompagne notamment Stéphane, que nous avons le plaisir de recevoir également. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous préférez témoigner avec votre seul prénom pour préserver votre anonymat. Vous avez été diagnostiqué bipolaire il y a près de 4 ans et vous avez été pendant 15 ans chasseur de tête. On va revenir bien sûr sur votre parcours. Alors les voisins, les voisines, on vous attend au standard si vous êtes concerné, si vous êtes porteur de troubles psychiques, schizophrénie, troubles bipolaires ou autres. Avez-vous pu trouver du travail ou si le trouble est apparu pendant que vous étiez déjà en activité, avez-vous conservé votre emploi? Vous pouvez aussi nous appeler pour témoigner si vous avez un proche concerné par ces troubles. Racontez-nous dès maintenant au 33 1 84 20 22 71 71 33 1 84 22 71 71. Et vous pouvez aussi comme toujours nous laisser vos messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et sur WhatsApp.
Bonjour, c'est Ahmed Salem depuis Nouakchott, la Mauritanie. Des personnes handicapées, ce sont des personnes qui font partie intégrante de la société. Malheureusement, chez nous en Mauritanie, si je peux le dire, les personnes handicapées sont considérées comme étant des personnes qui freinent ou des personnes qui handicapent même la société. Et c'est dommage parce que, quel que soit bien sûr le type d'handicap, les personnes doivent être intégrées pour qu'elles se sentent bien sûr impliquées dans la vie active de toutes les sociétés.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Alors les troubles psychiques sont reconnus depuis 2005 comme handicap en France. Peut-être pouvons-nous préciser de quoi nous parlons, Claire Leroy-Attala?
Oui, alors quand on dit que le handicap psychique a été reconnu dans la loi de 2005, en fait ce que l'on dit surtout, c'est que de la même façon que les autres situations de handicap, comme un handicap moteur, un handicap sensoriel ou un handicap intellectuel ou mental, les troubles psychiques, c'est-à-dire les maladies qui sont traitées par la psychiatrie et la psychologie, peuvent générer une situation de dépendance et de perte d'autonomie, et que donc il faut considérer cette entrave que ça peut constituer dans la vie quotidienne, et donc compenser ces situations et les intégrer dans toutes les politiques, notamment d'emploi des personnes handicapées. C'est surtout ça le message fort de la loi de 2005. En fait.
Une personne sur quatre va connaître dans sa vie un épisode psychique selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Jean-Philippe Cavrois, ça nous concerne?
Oui, ça nous concerne tous. Ce sont des chiffres énormes. Ça veut dire qu'autour de nous, on a tous quelqu'un qu'on connaît, qui est concerné, et dans nos entreprises, dans notre univers professionnel, évidemment aussi. Et c'est d'autant plus impressionnant que ces chiffres sont importants et que ce sont un handicap qui fait peur. C'est un handicap qui est assez tabou, dont on a du mal à parler. Et c'est vraiment aussi un point de combat pour nous tous, hein, c'est-à-dire pouvoir parler de ce handicap, pouvoir ne plus en avoir peur et pouvoir travailler et intégrer les personnes dans notre société, dans nos entreprises.
Claire Leroy-Atalin.
Ce qui est très fort dans ce chiffre, c'est qu'on a souvent l'image que lorsque l'on a on est en situation de handicap, du fait de ces troubles et de ces maladies, on ne peut plus travailler. Et ce chiffre nous dit quoi ? Nous dit que ça fait partie de la vie des entreprises, ça fait partie de la vie du monde du travail. Et que, effectivement, parfois, ça nous empêche de travailler, on a besoin d'être soigné, on a besoin de s'arrêter, mais on revient au travail et on doit composer, faire avec et donc prendre en compte les situations éventuellement de compensation que ça suppose.
Alors justement, selon une étude de la Fondation Pierre Deniker publiée hier, c'est tout récent, 22% des Français sont sujets à des risques de troubles psychiques, souvent liés au travail. Alors, quelles formes peuvent prendre les troubles psychiques, Jean-Philippe Cabrois ?
Ben, il y a plusieurs maladies, vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure, la schizophrénie, bien évidemment, la bipolarité, la dépression sévère, et il peut y avoir aussi d'autres diagnostics, donc pathologies peut-être moins connues, comme borderline, comme des TOC. Voilà. Donc ça peut prendre divers. Ce qui est certain, c'est que ces maladies sont aussi assez complexes. Alors je ne suis pas médecin, mais on voit le travail des psychiatres, c'est un travail difficile, puisque les pathologies sont très variables. Il peut y avoir aussi plusieurs diagnostics en même temps. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'attention personnalisée. C'est au cas par cas et la médecine a fait beaucoup de progrès pour soigner, pour accompagner. Mais c'est vrai que c'est difficile et que la médecine ne suffit pas pour ensuite permettre à la personne de vivre une vie épanouissante. Et c'est là où d'autres personnes peuvent intervenir, comme les associations, comme les entreprises et comme la société en général.
Alors, vous parlez de dépression sévère. On ne parle pas de personnes qui ont connu un épisode dépressif après le deuil d'un proche, par exemple, à moins que cet épisode s'installe dans le temps. C'est ça, hein ?
Oui, exactement. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a tous une santé mentale. On a tous des épisodes plus ou moins difficiles dans nos vies qui fait qu'on va être un peu déprimé, un peu en difficulté ou au contraire très excité. Et il y a des variations dans cette santé mentale. Là, les situations que l'on évoque, et notamment dans la loi et dans les chiffres, c'est lorsque les troubles s'installent dans le temps et dans une forme de gravité qui, du coup, gêne la personne dans son travail. Et peut-être pour revenir sur ce que disait Jean-Philippe Cabrois, il me semble qu'il faut faire un distinguo entre la maladie en elle-même. C'est-à-dire finalement, le diagnostic de la maladie, il va concerner tous les soignants et leur expertise pour aller trouver les bons traitements. Et effectivement, il y a eu des progrès considérables et la vie des personnes a nettement progressé lorsqu'on a des troubles psychiques. Ce qui compte, c'est de savoir comment ça se répercute dans sa vie quotidienne. Et deux personnes qui ont des troubles schizophréniques, ça ne va pas se répercuter de la même façon selon leur âge, selon leur expérience. Et ce que l'on voit dans le monde du travail, c'est qu'en fait, la traduction justement en termes de handicap, elle n'est pas dans un registre très complexe de la psychiatrie, elle est dans le registre du commun, c'est-à-dire en fait c'est de la fatigue, une grande grande fatigabilité. Alors on est tous fatigués le matin de se lever tôt. Il faut savoir que quand on est atteint de dépression sévère, effectivement cette fatigue elle va être tellement grande que se lever pour être au travail à 8h30, 9h, ça devient un vrai défi. Et ça, si on ne l'a pas en tête, on ne peut pas le comprendre et accompagner convenablement la personne, par exemple.
Il y a également des difficultés de concentration,
exactement.
Des difficultés relationnelles.
Parfois des difficultés relationnelles, des choses très simples. Par exemple, dans le monde du travail, tout est très codé. Il y a des règles de comportement implicites que l'on n'évoque jamais. Par exemple, on est censé comprendre assez vite quel est le code vestimentaire dans l'entreprise dans laquelle on est embauché. Et selon qu'on travaille à la radio ou dans une tour à la Défense à Paris, on ne va pas avoir adopté les mêmes codes vestimentaires. Quelquefois, quand on est pris par les troubles et la pathologie, on ne va pas percevoir ces signaux faibles, ces codes-là, et donc on va avoir un comportement qui va être considéré comme inadapté, pas très approprié, ou bien une trop grande émotivité qui fait que, en cas de désaccord, on va surinvestir la relation, s'énerver peut-être plus facilement, ou au contraire, se replier. Et tous ces comportements Voilà, ça entrave la vie quotidienne dans les collectifs de travail.
Et puis on imagine que cette fatigue peut aussi nous rendre moins productifs, Jean-Philippe Cavrois.
Oui, tout à fait. Et en fait, à moins d'entendre parler les personnes qui sont concernées, on a du mal à imaginer et à se mettre à leur place. Donc quelqu'un qui va dire par exemple « je n'ai pas confiance en moi », c'est un sentiment assez banal, on va dire, mais pour une personne malade, elle le pense vraiment. Et moi, j'étais très frappé. Une membre du Clubhouse m'a dit un jour « de toute façon, je suis une merde ». Et moi, je me suis dit « bon, ben, c'est une expression toute faite ». Et en fait, non, jusqu'à un moment où elle m'a vraiment fait comprendre qu'elle se considérait réellement comme une merde, excusez-moi. Et on prend conscience à ce moment-là de la souffrance, de la difficulté, du combat aussi de cette personne.
Un sentiment d'infériorité.
Et de sentiment d'infériorité très marqué. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir comprendre ça, dialoguer et pour pouvoir après faire changer les choses. Mais ce sont des maladies effectivement qu'on a du mal à imaginer si on ne les a pas vécues, en tout cas bien entendues.
Alors Stéphane, vous avez été diagnostiqué comme souffrant de bipolarité il y a 4 ans. Comment en êtes-vous arrivé à ce diagnostic-là ?
Eh bien, difficilement. je n'étais pas du tout dans ma tête voué à devenir diagnostiqué bipolaire. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. C'était pas vraiment un sujet d'actualité non plus, on va dire.
Vous connaissiez peu en fait ce trouble-là?
Ah non, je ne connaissais pas du tout même. C'est vrai que, à part mes frasques habituelles où je dis des bêtises souvent avec un humour décalé où très peu de personnes en rigolent, mais bon, ça c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, c'était un univers que je ne connaissais pas. C'est-à-dire la chasse de tête, au contraire, dans mon métier, dans mon univers, dans mon éducation, etc., dans ma formation scolaire.
Vous avez fait une grande école de commerce ?
J'ai fait une grande école de commerce, effectivement. Ça n'avait pas de place, au contraire, j'étais plus orienté par l'envie d'aller plus loin, plus haut, etc. Ce qui est tout à fait intéressant sur le principe, c'est ce qui s'est produit, parce que j'ai monté les étapes, les échelons, je suis devenu chasseur de tête senior.
Donc vous recrutiez en fait pour le compte d'entreprise ?
Voilà, des profils cadres supérieurs. Où j'avais vraiment droit de regard sur l'employabilité de certaines personnes plutôt que d'autres. Ce qui est une certaine responsabilité. Ensuite, j'en ai profité pour me dire qu'il fallait s'investir dans la cause de la chasse de tête, c'est-à-dire promouvoir et montrer la profession d'une bonne manière au travers d'associations. Ensuite, je me suis dit, il faut organiser un événement, un salon, il faut faire quelque chose. Et je me suis senti des ailes, je me suis senti naturellement porté par ces fameuses ambitions que j'avais initialement. Et je me suis dit, ça y est. La brèche est là, il faut que je l'atteigne. Mais en même temps, j'étais vraiment animé par une force qui était extraordinaire. Je dirais, elle me dépassait, elle m'enthousiasmait chaque matin que je me réveillais, que je ne vivais pas lorsque j'étais au travail. Comment imaginer que ça pouvait être une phase maniaque ? C'est impossible, impossible. Jamais j'aurais accepté qu'on me dise ce genre de choses. Si bien que cette phase s'est amplifiée, j'ai fait des choses où finalement, au bout du compte, je me suis retrouvé à dépenser une somme extraordinaire d'argent et retombé de mon piédestal. Je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment la réalité. Alors, naturellement, dans ce genre de situation, lorsque les événements s'arrêtent et quand l'activité normale reprend, tout simplement, une grosse dépression arrive. Et ma dépression a duré. Et je me suis dit, mais il faut que je sorte, là. Attends, il y a des choses à faire, là. Et comme vous parliez d'énergie, de capacité de se lever, capacité, une notion de jugement qui était vraiment mise à mal. Est-ce que j'ai vraiment pris les bons jugements? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions dans ma vie qui m'ont amené à me retrouver bloqué dans mon lit sans être capable de faire quoi que ce soit?
Une énorme fatigue à ce moment-là.
Énorme fatigue. Mais aussi difficulté à bien me concentrer, je veux dire, organiser mes idées, à les structurer. Donc, ça a été vraiment un gros choc. Et c'est juste. Et c'est heureusement ma femme qui m'a dit: mais tu ne penses pas qu'il peut y avoir plus que la dépression? Et on est allé voir un hôpital spécialisé dans ce domaine. Et on a passé des tests. Et il s'est trouvé que j'ai été cette fois-ci aussi reçu.
Et vous avez dû arrêter votre activité professionnelle? À ce moment-là.
Je l'ai arrêté avant même de passer le test, parce que je n'étais plus capable de me concentrer, d'avoir la force. Tout à fait.
Les voisins, les voisines, si vous voulez témoigner, si vous êtes concerné par un trouble psychique qui a des conséquences sur votre vie professionnelle, ou si vous avez un proche concerné, vous nous appelez tout de suite au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71, et on va accueillir un voisin de Dakar.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Bien, assez bien, alhamdoulilah.
Alors, votre fils Ibrahim est schizophrène, je crois. On vous écoute.
Bon, c'est un garçon qui a eu ces troubles-là à un moment... Il y a peut-être 4 à 5 ans de cela, mais il a réussi de temps en temps à surmonter jusqu'à obtenir aujourd'hui sa licence en droit privé. Mais le problème, c'est qu'il s'adapte très souvent, très bien, et il y a des moments où des moments d'impasse où la vie en communauté est difficile, les gens ne le comprennent pas. Et il ne se rend pas compte qu'il est malade. Et lui, il a des attitudes qui font qu'il a des hallucinations, de fois visuelles, de fois auditives, et qui ne rend pas la vie en commun facile, je le reconnais. Mais voilà, c'est un peu difficile. Mais là où il se trouve aujourd'hui, il a retrouvé quand même la plénitude de ses moyens, puisqu'il a pu quand même surmonter toutes ses épreuves et parvenir à obtenir son diplôme. Et actuellement, il a la recherche d'un stage pour travailler. Mais mon problème, c'est que j'ai peur parce qu'il y a des moments où ça peut arriver à tout moment, il est imprévisible. Alors, voilà la situation dans laquelle je me trouve.
Et est-ce que votre fils a un traitement pour sa maladie?
Il suit un traitement, il avait suivi un traitement, il a été interné deux fois ici à Dakar, mais c'est le lieu de saluer les médecins psychologues de Conakry qui ont pu quand même lui apporter ce qui lui manquait, puisqu'il a pu se stabiliser là. Et honnêtement, je suis très fier de ces gens-là qui ont pu faire ce travail. Parce qu'en fait, à Dakar, on n'a pas du tout réussi. Il avait des moments difficiles, c'était très, très difficile de vivre. Et là, maintenant, à Conakry, là, pendant 2 ans qu'il est là, il a pu se retrouver. Parce que même au niveau familial, c'est quelqu'un qui était rejeté. Parce que les gens se disaient, non, bon, c'est contagieux, c'est cela. Et puis voilà, mais là, à Conakry, il a pu, avec l'aide de mes parents et de ses mamans, il a pu se retrouver et s'équilibrer. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut soutenir une conversation. Bon, mais toujours est-il qu'il y a des séquelles qui font que l'individu, on est un peu sur les gardes. Parce qu'il faut toujours être sur les gardes pour prévenir ou parer l'irréparable. Voilà.
Et quel travail aimerait faire votre fils dans l'idéal? Donc il a étudié le droit.
Là, il est en stage, il veut faire un stage maintenant chez un notaire parce qu'il a fait le droit privé. Mais lui, il aime beaucoup l'armée, il veut aller vers la gendarmerie. Et voilà, il a déposé un dossier là. Mais voilà, et puis il aime les activités physiques et tout. Mais bon, il arrive des moments où il se sent complètement lourd. Il me dit, papa, moi je ne peux pas supporter parce que je suis en train de perdre mon temps. Cette maladie est en train de... Il est conscient qu'il est malade.
Et vous inquiétez en fait pour son insertion dans le monde professionnel?
Voilà, c'est ça. Il me dit, écoute, moi, à quoi je vais servir? Comment je peux être utile? Je dis, mais d'abord, commence d'abord par être par retrouver ta santé. Retrouve toute la plénitude de tes moyens. À partir du moment où tu seras utile à toi-même avant d'être utile à moi. Et voilà. Bon, nous discutons comme ça. Il soutient bien une discussion, hein, et puis bon, mais après, bon, il y a des moments où vraiment, bon, voilà, il tombe dans l'impasse, voilà.
Merci, merci beaucoup Ibrahim pour ce témoignage très touchant. Vous voulez réagir, Claire Leroy-Attala ?
Oui, tout d'abord, je suis très admirative de, effectivement, du parcours de votre fils et on sent que vous exprimez de la fierté dans le parcours qu'il a eu et je trouve qu'elle est très justifiée, légitime parce que la facilité, c'est effectivement de se décourager. C'est une maladie qui parfois est très décourageante. On peut passer par des moments très difficiles. Et il faut s'accrocher et ne pas se décourager et tenir dans le temps. Donc déjà, voilà, vous dire en tout cas mon admiration et le respect parce que si votre fils aujourd'hui, il arrive à avoir un parcours aussi admirable, c'est-à-dire malgré la maladie, finir ses études, continuer à avoir un projet professionnel, c'est notamment grâce aux soignants, et vous l'avez soigné, mais c'est certainement grâce au soutien que vous lui apportez, vous et votre famille et vos proches qui ne le jugeaient pas dans sa maladie, qui essayaient de le comprendre, qui échangeaient avec vous, et ça, ça me semble clé. Donc j'ai envie de dire, tenez par rapport à ça. L'autre point peut-être à apporter, c'est que vous soulignez c'est que le fait que c'est une maladie au long cours, c'est une maladie chronique en fait. Donc c'est difficile à gérer dans le temps et en même temps ça veut dire que c'est des maladies avec lesquelles on apprend à vivre. De la même façon que le diabète, on apprend à vivre avec dans le temps, et bien là, plus les années vont passer, plus votre fils va apprendre à se connaître, apprendre à déceler les signaux et vous aussi éventuellement de rechute, de difficultés. S'il est conscient de sa maladie et qu'il a besoin de soins, ça veut dire qu'il va trouver les bonnes stratégies thérapeutiques. Et si à cela, il arrive à ajouter une hygiène de vie, une vigilance dans le quotidien, il va trouver un équilibre durable avec votre aide, il me semble.
Stéphane, je crois que vous vouliez réagir également.
Bien sûr, avec plaisir. je suis tout à fait d'accord. Je tiens également à féliciter votre fils, mais à vous féliciter vous-même. En tant que diagnostiqué bipolaire, chaque jour, je me rends compte à quel point on a besoin des autres. Je suis membre du Clubhouse Paris, donc naturellement le Clubhouse me soutient et je les remercie tous les jours. Mais évidemment, les proches, c'est jamais simple, c'est même très difficile. Sachez une chose, c'est qu'il y a différentes sensations que je vis avec le diagnostic bipolaire, c'est que à la base, moi, je suis un homme comme les autres. Si on est là aujourd'hui tous les quatre, hein, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau de l'emploi. Sinon, dans la vie de tous les jours, il y a des remèdes, il y a du soutien.
Quand on a la chance d'en avoir.
Quand on a la chance d'en avoir, effectivement. Mais bon, en tout cas, il y a différentes manières d'être soutenu, que ce soit au niveau familial ou extérieur. On va s'en sortir. Il y a des jours où on n'a pas envie de s'en sortir. Il y a des jours où on aimerait bien s'en sortir. Il y a des jours où on pense qu'on va s'en sortir. Votre fils est imprévisible. Ça arrive. Et ça prend un autre sujet pour moi. C'est que moi, quelquefois, je me dis « Ah, qu'est-ce que je me sens bien aujourd'hui ? Allez, je crois que je suis guéri. » Ah ouais, je me sens bien, c'est cool. Alors, sans partir dans la vision, l'approche maniaque, je me dis non, je l'ai bien compris, je l'ai bien intégré, je me sens prêt pour repartir dans l'emploi, ça va être bien. Mais est-ce que je suis vraiment guéri ? C'est-à-dire qu'il y a une remise en question qui est tellement forte depuis tellement de temps maintenant que je ne crois plus en ce que je pense, ou je ne me donne pas le droit de croire en ce que je pense, ça devient la schizophrénie. Et donc, ces situations d'impasse peuvent être contrées grâce justement au regard des autres et à avoir une évaluation extérieure.
Et en apprenant à vous connaître. Exactement. 7 milliards de voisins, nous parlons du handicap psychique aujourd'hui, dépression, schizophrénie, bipolarité, entre autres. Ces troubles peuvent détériorer les capacités de concentration, de compréhension, de mémoire, notamment au travail. Alors comment favoriser l'accès au travail des personnes qui souffrent de ces troubles? On continue d'en parler avec nos invités. Mais d'abord, qu'est Mes Douélés? C'est signé Quantique et c'est sur RFI. Parlons du handicap psychique aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Alors pour les voisins et les voisines qui nous rejoindraient en cours de route, il existe plusieurs types de handicap. Moteur, donc qui touche à la motricité. Handicap sensoriel, qui concerne les personnes aveugles, malentendantes ou muettes. Le handicap mental, qui affecte les capacités intellectuelles. Et puis, le handicap psychique, notre sujet du jour. Handicap qui peut, lui, évoluer, se stabiliser, être traité par des soins. Alors, comment ce handicap psychique est-il perçu côté entreprise? Notre reporter Alice Milo est allée sonder une entreprise de chimie, Arkema, entreprise qui compte 20 000 collaborateurs sur plusieurs continents, employés sur des activités de recherche et de production pour des objets de notre quotidien, comme des semelles de chaussures. Raphaël Grivel est en charge du développement ressources humaines et sociales au sein de cette grande entreprise.
Arkema est engagée sur la question de l'insertion des personnes en situation de handicap depuis plus de 10 ans maintenant. Sur la question du handicap psychique, notre engagement date plus particulièrement d'il y a 3 ans. Donc au travers donc du partenariat avec le Clubhouse Paris, on a commencé donc aussi à intégrer des membres du Clubhouse dans nos équipes, alors dans le cadre de ce qu'on va appeler des missions courtes, enfin sous forme de CDD.
Donc il y a eu des embauches de personnes en situation de handicap psychique.
En CDD, mais oui, c'est bien le cas.
Est-ce que vous avez décidé de définir, par exemple, un certain nombre de quotas de personnes que vous vous engagez à embaucher par an?
On ne fonctionne pas par quotas. Le principe, c'est on a des besoins, on a des postes à pourvoir. Ces postes sont ouverts potentiellement, je dirais, à tout type de profil et donc potentiellement à tout type de handicap. Avec notre politique qui permet, du coup, si nécessaire, donc, d'aménager les postes de travail. Voilà, et donc pas de principe de quotas.
Pour préparer cet entretien, je vous ai demandé si vous pourriez me présenter un collaborateur collaborateurs en situation de handicap psychique hein, qui travaillent pour Arkema et qui pourraient témoigner. Vous avez refusé, pourquoi ?
Ma philosophie, je pense plus globalement la philosophie de l'entreprise, c'est de considérer qu'on intègre un collaborateur, pas parce qu'il est en situation de handicap, mais parce qu'il a la compétence voilà, pour la mission pour laquelle on le recrute. Et voilà, une fois qu'il est dans notre entreprise, on n'a pas pour habitude de parler des salariés parce que ou pour leur situation de handicap. On parle des collaborateurs parce qu'ils ont une compétence particulière, ils exercent un métier, ils ont un talent particulier. Moi-même, au niveau de la mission centrale handicap, je n'ai pas connaissance des handicaps de nos salariés. Parfois, nos salariés font le choix, et ça c'est un choix qu'on leur offre, de faire connaître ou non leur situation de handicap à leur équipe de travail. Mais par contre, si vous voulez, je peux vous parler d'un de nos collaborateurs qu'on va appeler Antoine pour préserver son anonymat. Antoine, c'est quelqu'un qui était resté voilà, quelques années sans emploi. La mission que lui proposait Arkema, c'était gérer un premier pas de retour en fait, vers l'emploi. Il était, entre guillemets, en concurrence. Enfin, en tout cas, il a été rencontré au même titre que d'autres candidats sur cette même mission. Et il a été choisi d'abord et avant tout parce que voilà, la direction qui l'a embauché a considéré qu'il avait les compétences pour réaliser la mission qui lui était confiée. Les choses se sont passées de manière finalement assez fluide en fait dès le départ, mais il y avait quand même des appréhensions voilà, sur la manière dont l'intégration allait se passer, les relations de travail, etc. Le choix a été fait de voir si en situation, en fait, on allait avoir besoin en fait, d'un accompagnement spécifique, donc ce qui n'a pas été le cas, ni même, je dirais, d'aménagement en fait, particulier. Intégrer un collaborateur en situation de handicap psychique, c'est de toute façon se poser ces questions-là, de la manière dont on va l'intégrer, la manière dont on va, ce qu'on va dire ou pas dire aux équipes, la manière dont on va être à son écoute, voilà, répondre à ses besoins. Ça fait partie aussi de l'apprentissage managérial, on va dire, de l'entreprise, quoi.
Alors, une grande entreprise, on l'entend, peut ouvrir ses portes à des personnes handicapées psychiques. Et c'est l'une de vos entreprises partenaires, Jean-Philippe Cavrois.
Oui, tout à fait. Arkema, comme il est dit dans le reportage, nous a ouvert les portes il y a environ 3 ans. Et ça... C'est très encourageant parce que ça montre qu'une entreprise qui prend conscience que le sujet du handicap psychique existe en son sein, mais qui s'ouvre aussi à des personnes extérieures pour les intégrer, et un partenariat aussi qui dure dans le temps. Voilà. Et on voit que cette entreprise monte en compétences année après année, qu'elle est de plus en plus apte à être consciente des situations, les gérer, et aussi intégrer des nouveaux collaborateurs avec les compétences qu'ils apportent, mais aussi toute leur expérience de vie et toutes les, je dirais, la richesse qu'elles peuvent apporter à l'équipe. Voilà, donc Arkema est un très bon exemple, et ils font avec le Clubhouse, mais aussi avec d'autres associations, beaucoup de choses, beaucoup d'actions pour sensibiliser le personnel, les managers, et pour aussi intégrer les personnes et aider les personnes qui sont en recherche d'emploi à retourner vers l'emploi. Alors, et à s'y maintenir.
Vous travaillez avec 70 entreprises partenaires en France.
On a environ 70 partenaires et ça grossit tous les ans. Et l'idée, c'est d'être très, très, très souvent en contact avec eux. On croit beaucoup aux vertus de la rencontre entre le monde professionnel et les personnes qui sont concernées par ces maladies.
Et comment vous collaborez concrètement ? Vous leur proposez des profils de personnes ?
Alors, c'est pas exactement ça. En fait, on va provoquer les rencontres. On a vraiment l'impression de jouer ce rôle de chaînon manquant, vous voyez, entre des personnes qui sont loin du travail, qui viennent de l'univers médical, et pour cause, hein, on a parlé de ces maladies, il faut se soigner, il faut commencer par ça. Et donc, loin du travail et le milieu professionnel. L'idée, c'est de faire se rencontrer. On a notamment une activité qui est de sensibiliser, une sensibilisation. On propose aux entreprises de venir dans les entreprises avec les membres et de parler du handicap psychique, de dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, quelles sont les idées.
C'est très méconnu.
C'est très méconnu, les idées préconçues, et de voir comment est-ce qu'on peut justement changer le regard. Et quand vous avez passé 3 heures avec un membre, en fait, il arrive souvent qu'à la fin de la sensibilisation, l'entreprise dise « Ah ben tiens, cette personne, nous pouvons très bien, nous pourrions l'intégrer », et il propose un stage. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que du côté du membre, c'est la même chose. La personne, souvent, elle a vécu des choses difficiles dans l'entreprise, souffrance au travail, crise, et elle a peur de retourner en entreprise. Le fait d'aller en entreprise, de passer du temps avec les professionnels, ça permet à cette personne de se dire « Tiens, je peux me projeter et en fait, je me verrai bien retourner vers l'entreprise ». Donc, ces rencontres sont très importante et c'est un bon chemin pour envisager et ouvrir les portes.
Et l'accompagnement que vous proposez avec votre association Clubhouse France est très intéressant puisqu'en fait vous associez des personnes handicapées psychiques à la gestion des Clubhouse, donc ils sont en fait des endroits physiques, hein. il y en a trois en France dont un à Paris. Et si vous nous racontiez une journée type dans un de ces Clubhouse?
Ben volontiers.
Comment ça se passe?
Alors déjà pour dire juste que les personnes que nous accompagnons, on les appelle les membres. Ils ne sont pas usagers, ils ne sont pas patients, ils ne sont pas bénéficiaires, ils sont membres d'un club. C'est pour ça qu'on s'appelle Clubhouse. Nom un peu étonnant, mais en fait voilà, ça dit je suis membre d'un club, donc je suis partie prenante d'un
club.
Ça
induit une responsabilité.
C'est une responsabilité, exactement. Donc on est membre. Et l'idée c'est de dire que le membre c'est lui et lui seul qui prend son rétablissement en main. Et son rétablissement en main, ça veut dire comment je vais vivre au mieux avec tout ce que je suis, et je suis bien plus que ma maladie, bien sûr, mais comment je vais pouvoir trouver une vie épanouissante, un travail épanouissant, tout en gérant ma maladie. Et on y arrive, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, mais on y arrive. Alors, quand le membre arrive le matin, en fait, on a tous les matins, et tout en début d'après-midi aussi, une réunion pour organiser la co-gestion. La co-gestion, c'est on fait tout ensemble, tout pour faire fonctionner le Clubhouse.
Et donc c'est la préparation des repas, voilà, la logistique.
Exactement. Et on dit, tiens, le matin, il faut faire telle chose, qui veut faire quoi? Donc le repas, les courses, l'entretien des locaux, accueillir des visiteurs, contacter les entreprises qui vont venir la semaine suivante, faire du recrutement. Voilà. Chaque fois qu'on recrute quelqu'un au Clubhouse, c'est fait main dans la main avec les membres qui participent à toutes les étapes, et y compris à la décision d'embauche. Bref, cette co-gestion, elle est faite ensemble, on l'organise chaque jour ensemble.
Et c'est un premier pas de retour aussi vers la vie professionnelle.
Exactement. C'est une manière, je dirais, de reprendre des responsabilités, de mettre en œuvre ses compétences, de les redécouvrir. Parce que bien souvent, quand on arrive, on oublie qu'on sait faire des choses. Cette idée de dire comment est-ce qu'on part de ce que la personne sait faire, veut faire, et comment on lui redonne confiance en elle. Il y a un énorme travail de confiance à redonner. Et le fait de partager toutes ces choses, de s'appuyer les uns sur les autres, et aussi de travailler en équipe. Les membres travaillent beaucoup en binôme ou à plusieurs. Ils s'appuient les uns sur les autres, ils s'appuient sur les salariés. Ce travail de solidarité entre membres est un levier fantastique pour reprendre, se remettre en situation quasi professionnelle.
Stéphane, vous bénéficiez aussi de cet accompagnement?
Oui, avec grand plaisir. C'est vrai que ça a été une utilisation. Je vais utiliser le terme utilisation du Clubhouse parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi un couteau suisse. Je suis venu la fois où je suis arrivé, j'étais pas très très en forme. Je savais pas du tout, je savais pas très bien ce qui allait se passer. Et en m'investissant au fur et à mesure, pendant une période, je suis venu 2 jours. Après, je suis venu 3 jours. Après, 4 jours. Après, j'ai décidé de rester seulement 2 jours. Et pour faire des choses différentes, hein, c'était à la fois, là aujourd'hui, moi je vais chercher le courrier, pensez pas à moi pour le reste, si je vais faire l'accueil téléphonique, ça va me faire du bien. Le lendemain, j'ai envie de faire un projet à long terme, etc. Et on s'y retrouve aussi en fonction de comment on se sent le jour J. Et l'important, c'est que c'est un environnement, entre guillemets, d'entreprise, en ayant toute cette bienveillance et... avec les salariés qui sont là et Jean-Philippe, mais également avec les autres membres. Je vous donne un tout petit exemple. Hier, il y a eu une réunion entre membres. Il n'y avait pas de salariés. On parlait d'un sujet qui s'appelle session team building. Ça fait professionnel, ça.
En fait.
Eh bien, on sait, mais... c'était exactement le type de réaction, d'investissement, de volonté individuelle qui peuvent être différentes entre chaque membre qui était face à moi, et j'ai adoré.
Et vous parlez d'un milieu bienveillant. Est-ce que vous craignez une stigmatisation quant aux troubles dont vous souffrez dans le monde du travail?
Alors, effectivement, c'est vrai que c'est pas toujours bien compris. moi-même, je me pose des questions. Alors, je suis quasiment un peu malveillant envers moi-même. Et je me dis, mais arrête de dormir. Mon médecin généraliste, il me dit, les diagnostiqués bipolaires, ils trouvent toujours une excuse pour pas faire les choses. Ils sont toujours fatigués. Bon, je l'aime bien tout de même. Oh, peut-être je vais changer. Oui. Mais c'est vrai que c'est une méconnaissance qui est évidente. Et le problème, c'est que lorsqu'on est en entreprise et qu'on embauche des employés avec qui on doit travailler, si on n'a pas confiance en eux, c'est mort. Donc il faut les comprendre, il faut aller faire une petite gymnastique. Alors nous, on a le plaisir aujourd'hui d'en parler à 7 milliards de voisins. J'espère que la parole va aller très 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 loin.
Claire Leroy-Attala. Peut-être juste pour compléter, c'est vrai qu'en fait, on peut même aller plus loin que la stigmatisation, ces maladies font peur. Mmh. Et derrière, le nom de ces maladies, on a des images qui sont très fortes, qui sont l'hôpital psychiatrique où les gens sont enfermés et qui sont la violence.
Et j'aimerais vous donner un chiffre, un tiers des Français se déclarent gênés à l'idée de travailler dans la même équipe ou de partager un repas avec une personne atteinte d'un trouble psychique.
Exactement, et tout ça c'est lié à l'ignorance. C'est qu'on en parle tellement peu que l'on ne sait pas qu'aujourd'hui déjà on ne vit plus à l'hôpital. Lorsqu'on est hospitalisé, c'est quelques jours, le temps de trouver un traitement et on peut retrouver, alors après il y a tout un temps de rémission et de rétablissement, mais néanmoins on ne vit plus toute sa vie à l'hôpital et certainement pas enfermé et certainement pas avec des camisoles de force. Donc ça, ce sont des images anciennes qui malheureusement persistent, mais c'est plus la vie des gens. Deuxième chose, c'est la violence, la crainte de la violence. On a trop souffert, et c'est important du coup cette émission aujourd'hui, d'avoir véhiculé des messages très durs sur les accidents qu'il y a eu de personnes malades en hôpital, qui certes ont des pathologies, mais qui sont aussi dans des profils de psychopathie, donc des formes très particulières et qui ont eu des actes de violence. La violence commise par des personnes qui ont des maladies est moins importante que par des personnes qui n'ont pas de maladie. Par contre, il y a une vraie violence de la société à l'égard des personnes qui sont malades parce qu'il y a une vulnérabilité. Et ça, ce message-là, il faut qu'on soit capable de le dire partout et pouvoir dédramatiser aussi ces maladies pour que l'ignorance n'enferme pas les gens dans des stéréotypes et du coup les isole.
Handicap psychique et travail, c'est notre sujet du jour dans 7 milliards de voisins. Comment dépasser les préjugés pour accéder à l'emploi quand on est porteur de schizophrénie, de troubles bipolaires ou en dépression sévère? Et on va accueillir un voisin tout de suite.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Bonjour Adamou.
Bonjour.
Vous êtes à Douala, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes également schizophrène. On vous écoute, Adam.
Oui, oui bonjour, alhamdoulilah, tout va bien aujourd'hui. Moi, j'ai été dépisté schizophrène juste après l'obtention de mon diplôme. Donc, après ça, j'ai décidé de faire un concours d'intégration que j'ai réussi. Et dès lors où j'ai entamé mon parcours professionnel, j'ai rencontré d'autres patients qui souffraient aussi d'autres maladies chroniques. Ça m'a donné une motivation supplémentaire. Donc, ainsi, j'ai décidé de me réaliser, de me faire accompagner, de m'assister. Donc, médicalement, j'ai été très bien assisté par les professionnels ici chez moi au Cameroun. Ça m'a facilité mon intégration professionnelle, ça m'a facilité ma réalisation sur le plan intellectuel et mon épanouissement dans la vie sociale et spirituelle.
Donc vous n'avez pas dû faire face à des préjugés ou à des stéréotypes?
Vous savez, les préjugés et les stéréotypes, ça ne manque pas. Mais je pense que nous qui souffrons de ces maladies et qui avons réussi à nous réaliser, nous sommes un témoignage et avec nos réalisations, nos performances dans les différents milieux où on se trouve, ça permet de changer le regard que les autres ont sur nous. Mmh. Au contraire, aujourd'hui, beaucoup de mes collègues, beaucoup de mes amis, de mes camarades et même les membres de ma famille ont un regard plein d'admiration car je suis une fierté pour tous ceux qui ont cru à moi et tous ceux qui ont investi dans mon processus d'intégration sociale et professionnelle.
Merci, merci beaucoup Adamou pour ce témoignage très positif. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est fort parce que du coup j'ai envie de rebondir par rapport à l'expérience du Clubhouse. C'est aussi être dans une posture, se dire comment on fait changer ce regard-là. On n'est pas obligé de subir le regard de la société sur ces pathologies-là, sur ces maladies. Et c'est aussi reprendre le pouvoir et de dire regardez, moi je suis la preuve que je suis comme vous et moi. On est tous des êtres humains et je ne me réduis pas à ma maladie et j'ai mon parcours de vie comme le vôtre. Et au Clubhouse, c'est aussi ce qui se passe quand les membres interviennent, c'est de pouvoir incarner cette humanité que l'on a tous et qui fait qu'on ne se réduit pas à sa maladie et qui fait réellement changer.
Et puis c'est bien d'avoir des exemples de réussite en
Exactement.
Fait.
Exactement.
Oui, je crois que le premier regard qui peut être stigmatisant, c'est le sien propre. Mm. Voilà. Donc l'idée, et je pense que là, quand on parle de solution, c'est déjà d'arriver à reprendre confiance en soi, changer le regard sur soi-même. Ça amène les autres à changer de regard sur vous. Il y a une solution vraiment auquel moi je crois beaucoup et on y croit beaucoup au Clubhouse parce qu'on la vit. Et il y a environ 80 membres, hein, c'est-à-dire 30% des membres qui sont aujourd'hui en insertion professionnelle, dans 80% en milieu ordinaire. C'est ce qu'on appelle l'emploi accompagné.
Donc dans des entreprises dites classiques.
Voilà, dans des entreprises dites classiques. C'est l'emploi accompagné. C'est-à-dire qu'en fait, ça reprend pas mal de choses qu'on a entendues, à savoir comment est-ce qu'une personne, on peut l'accompagner pour aller en emploi, aménager le poste.
Par exemple, avec des temps partiels.
Avec des temps partiels, avec aussi peut-être un lien avec le manager qu'il faut préciser. Je pense à un membre, par exemple, qui dit qu'il travaille très bien, mais il a juste besoin, avant de partir le soir, que son manager lui dise « Eh ben, écoute, la journée s'est bien passée. » Et à ce moment-là, tout va bien. S'il ne voit pas son manager, eh ben, le cerveau va se mettre en route et il va tout de suite ne plus croire en lui. Voilà, donc comment on accompagne la personne en emploi, comment on accompagne l'entreprise aussi pour arriver à donner des clés de compréhension et désamorcer un petit peu ces incompréhensions qui peuvent bloquer au lieu de permettre à la personne de s'épanouir. Voilà, je crois beaucoup à l'emploi accompagné, dans le cas du handicap psychique en particulier.
Et vous êtes très optimiste. Stéphane, je vous laisse le mot de la fin. Quels espoirs vous avez pour votre avenir à vous ?
Eh bien, premièrement, je devais citer le mot « saperlipopette », c'est fait. Je vous remercie aux membres du Clubhouse. Pour moi, le mot de la fin, c'est réellement cette notion de continuité de vie, même si c'est une nouvelle vie.
C'est un message qu'on pourrait faire passer à des personnes qui, comme vous, seraient porteuses de troubles psychiques.
Exactement. S'il faut expliquer encore et toujours auprès des auditeurs et tout qui que ce soit, on se bat pour avancer. Il y a une incompréhension aussi, quelquefois, je leur dis, mais laissez-moi venir vers vous expliquer, ou alors écoutez-moi, venez vers moi. En
L'idée,
tout cas, il y a de très belles choses à
vivre. Rencontre avec le monde professionnel.
C'est pour ça que nous sommes là.
Et c'est possible. Merci. Merci à vous, Stéphane, d'être venu témoigner sur notre plateau.
Merci
Jean-Philippe Cavrois et Claire Leroy-Attala d'avoir participé à notre émission pour nous éclairer
Merci
sur ce tabou, le handicap psychique encore largement méconnu en France et ailleurs. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Romain Dubrac à la réalisation, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous en coulisses. Merci également à Didier Chérouze et à la classe d'accueil du Cactus à Aubervilliers qui est venue assister à l'émission. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines, pour votre écoute, pour vos appels et pour vos messages. Demain, 7 milliards de voisins, vous retrouverez Emmanuel Bastide pour le rendez-vous des jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent la parole à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain avec le coach bien connu maintenant, Didier Akwété. À bientôt les voisins.